Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche à vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Monsieur Mabiala Maumba. Il est directeur de l'éducation et de la jeunesse au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Mabiala, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci, c'est un plaisir pour moi aussi déjà.
Alors avec vous dans cet entretien, on va parler de vous. On va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, du travail que vous faites au sein de l'organisation. C'est vrai que vous êtes directeur de l'éducation et de la jeunesse. Donc vous faites quoi exactement, quoi concrètement pour la jeunesse?
Eh bien, mon rôle, c'est de coordonner les interventions de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, auprès des États membres pour les aider à élaborer des politiques d'éducation et de jeunesse qui répondent aux besoins de leur pays.
Les détails, c'est tout à l'heure.
Alors, les détails,
tout à l'heure. Mais on va parler aussi des fonctions antérieures que vous avez occupées. C'est rare quand même de voir un Congolais occuper des hautes responsabilités dans les institutions internationales.
Mais c'est pas rare, il y en a quand même.
Il y en a quand même, mais ils ne sont pas nombreux.
Oui, malheureusement, on n'est pas nombreux, mais il y en a quand même. Mais il faut le dire, il y a peut-être des noms qui ne sont pas connus non plus. Il y a des Congolais qui sont représentants de telle agence des Nations Unies dans tel ou tel pays, ou qui ont été, ou qui sont directeurs dans telle organisation internationale. Mais on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est ce que je disais, professeur. Même si vous ne voulez pas que vous appelez professeur, vous êtes professeur, vous avez travaillé à l'UNICEF, à l'USAID.
Oui, j'ai beaucoup aimé mon expérience à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. J'étais encore tout jeune, je venais de terminer mes études au Canada. Et comme par hasard, je suis allé aux Nations Unies à New York en voyage et j'ai rencontré une dame, une japonaise, qui recrutait des experts pour Haïti. Vous savez, surtout, c'était dans les années 1989, si vous vous rappelez l'histoire de ces pays. Quelques années auparavant, le président Duvalier venait de tomber. C'était la fin de la dictature. Le pays était dans un désordre extraordinaire. Une instabilité politique totale. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'experts qui voulaient bien aller travailler à Haïti. Et moi, évidemment, quand la dame a vu mon CV, il a dit, mais c'est exactement le type de personnes que nous recherchons. Est-ce que vous souhaiterez aller en Haïti? Moi, je dis, oui, ça dépend des...
Vous avez postulé?
Non, je n'ai jamais postulé.
Quelle chance!
Ben, c'est la fin, effectivement, c'est une chance, mais aussi, comme par hasard, mon profil correspondait au type de personnes qu'on recherchait.
Alors, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance, Monsieur Mabiala Maumba. Vous n'avez pas de prénom?
Ben, moi, je suis d'accord avec la politique de l'authenticité. J'avais un prénom que je n'aimais pas beaucoup, que j'ai laissé tomber, donc ça ne vaut pas la peine. Mais mes amis d'enfance...
Il
y a certains amis d'enfance qui m'appellent encore par Joachim.
Mais c'est pas si moche que ça.
Mais j'aime bien Mabiala Maumba. Mm-hmm. J'aime bien, je suis content qu'on m'appelle Mabiala Maumba.
Mabiala Maumba, est-ce que ça a une signification particulière? Ça signifie
quelque chose? Littéralement, Mabiala signifie celui qui va gouverner. Vous savez, c'est le nom qu'on donnait aux princes dans l'ancien royaume du Congo. Vous savez, avant l'arrivée des Blancs, nous étions organisés, le peuple africain, nous étions organisés. Il y avait entre autres les royaumes du Congo qui s'étendaient sur un territoire qu'on retrouve présentement entre l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Bas-Congo. C'est ce qu'on appelait les royaumes du Congo. Et Mabiala, littéralement, comme je dis ici, c'est lui qui va gouverner. C'est le nom qu'on donnait au prince. Et mon père a été un chef traditionnel. Donc j'ai hérité de ce nom de mon père, c'est le nom de famille, Mabiala Maumba. Et Umba vient de ma grand-mère. Et le mâle signifie le deux. C'est comme pour signifier Mabiala, fils de Umba. Parce que dans ma région d'origine, dans ma tribu, c'est le matriarcat. C'est-à-dire concrètement, comme disent nos parents, les enfants appartiennent à la mère. Donc moi, j'appartenais ou j'appartiens à ma grand-mère, à la famille de ma mère. Voilà.
Chez vous où?
Dans les Mayombe, les enfants appartiennent à la famille de la maman. Donc moi, j'appartiens à ma grand-mère, qui était chef traditionnel d'ailleurs.
C'est le système matriarcat.
Le système matriarcat, oui.
Alors, vous êtes né où, monsieur Mabiela?
Alors, je suis né dans un petit village qui s'appelle Lele Sundi, à quelques kilomètres de Tchela. Dans le Bas-Congo, effectivement.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
J'ai passé
une grande partie de votre enfance?
Non, j'ai passé plutôt la plus grande partie de mon enfance à environ 70 km de là, à Lukula, qui est plutôt une petite ville ou un centre urbain. C'est là que j'ai fait toutes mes études primaires et ensuite mes études secondaires à l'internat.
Loin des parents, pourquoi?
Non, à l'époque, je suis né à Lele Sundi. Ensuite, mes parents se sont installés à Tchela. Et ensuite, mon père, qui était à l'époque fonctionnaire, bougeait. Après Tchela, il avait été transféré à Lukula. Donc, c'est là que j'ai poursuivi mes études primaires avant d'aller à l'école secondaire. Par la suite, mon père a été transféré à Matadi, mais je suis resté avec ma mère à Lukula et poursuivre.
Le temps pour vous d'obtenir votre diplôme?
Oui, finalement, j'ai terminé mes études secondaires au collège de Lukula, qui était à l'époque l'un des établissements secondaires les plus réputés dans le pays, qui était tenu par des missionnaires, des scoutistes. Et qui, en fait, comme indicateur que c'était une bonne école, c'était pratiquement tous les élèves qui réussissaient leur diplôme d'État.
Comment vous vous retrouvez à Kinshasa?
Alors, je me suis retrouvé d'abord, j'ai visité Kinshasa pour la première fois à l'âge de 17 ans. À la fin de ma cinquième année secondaire, je suis venu rendre visite à ma sœur aînée qui, elle, vivait déjà à Kinshasa. Et évidemment, quand j'ai terminé mes études secondaires, je suis venu à Kinshasa pour faire des études supérieures.
Voilà. Où?
Alors, j'ai fait l'IFASIC, qui à l'époque s'appelait ICI, Institut de Sciences et Techniques de l'Information. Et j'avais évidemment commencé par les graduats, qui étaient un graduat commun, un graduat en journalisme, et ensuite une licence en relations publiques.
Vous êtes journaliste de formation, donc?
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le journalisme? Pourquoi vous avez voulu faire le journalisme?
Au départ, j'ai fait le journalisme, mais je suis sorti du journalisme pour me diriger vers la communication et ensuite vers l'andragogie, c'est-à-dire.
L'andragogie.
Alors, c'est un mot compliqué. Alors, souvent, tout le monde connaît un peu la pédagogie, n'est-ce pas? Vous êtes familier avec la pédagogie?
Oui.
Alors, la pédagogie, c'est la science de l'éducation qui s'occupe de l'éducation des enfants. Littéralement. Éducation des enfants. Okay. Alors, l'andragogie, par contre, c'est littéralement, si vous voulez, mais c'est l'origine grecque. Le mot est d'origine grecque, c'est l'éducation des adultes. C'est les sciences de l'éducation qui étudient les phénomènes qui se passent quand les adultes apprennent, comment est-ce que les adultes apprennent. Par exemple, vous, en tant qu'adulte, si vous retournez aux études, vous avez des motivations différentes d'un enfant. Donc, dans le processus d'apprentissage, ceux qui vous enseignent doivent tenir compte, par exemple, de vos besoins spécifiques, de vos aspirations, et ainsi de suite, et adapter le contenu à ce que vous souhaitez. Et même la manière de vous enseigner, les techniques qu'on utilise pour vous enseigner doivent être différentes par rapport aux techniques qu'on utilise quand on enseigne aux enfants.
Et vous avez un diplôme en andragogie. C'est pas facile à prononcer.
Andragogie, oui. J'ai fait des études d'andragogie à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal au Canada. Et c'est suite à cela, justement, après avoir terminé mes études à l'Université de Montréal, que je suis allé à Haïti, à Port-au-Prince, pour travailler pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF.
Vous n'avez pas eu du mal à trouver de l'emploi?
Ben, grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de problème pour trouver un emploi.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le jour où je suis allé pour la première fois au collège. Parce que, comme j'ai dit, c'était un collège prestigieux qui était un internat. Et moi, pendant presque 5 ans, j'étais à l'école primaire. 6 ans, j'étais à l'école primaire. On voyait les collégiens, c'était prestigieux d'être au collège. Et le jour où ma mère m'a conduit à l'internat au collège, j'étais extrêmement heureuse. Je trouvais que j'avais atteint un niveau à l'époque.
En tant qu'enfant.
Quand enfant, j'avais atteint un niveau extraordinaire. Donc j'étais extrêmement heureux.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie? Qu'est-ce que vous détestez dans la vie?
Qu'est-ce que je déteste dans la vie? Des mensonges, je déteste l'hypocrisie, je déteste des faux semblants. J'aime des gens qui sont vrais, qui disent des choses telles qu'elles sont, même si cela ne plaît pas aux autres. Évidemment, dans la vie réelle, dans la vie concrète, les choses malheureusement ne se passent pas toujours ainsi. Mais je me plais personnellement, je me sens beaucoup mieux avec des personnes qui sont directes, qui sont franches, qui disent les choses de manière très 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 ouverte.
Marié, père de combien d'enfants?
Oui, je suis marié, père de 3 enfants. Qui sont aux États-Unis, qui ont grandi, ma fille aura 30 ans cette année, ma première fille, et puis j'ai un garçon qui aura 28 ans ce mois-ci, et ma dernière fille qui aura 22 ans cette année.
Vous avez quitté la RDC en quelle année?
J'ai quitté la RDC en 1986. Et je suis revenu en 2011 pour diriger un programme d'éducation, un projet financé par l'Agence américaine de développement international ici à Kinshasa. Et le programme était mis en œuvre dans les Katanga et dans les Kivu et sous la responsabilité de IRC International Rescue Committee. Donc j'ai travaillé 2 ans avec IRC, ensuite je suis reparti pour rejoindre l'OIF à Paris.
Et donc depuis 1986, vous n'êtes revenu qu'en 2011.
Voilà.
Le pays ne vous manquait pas?
Ben oui, dans une certaine mesure. Maintenant, je dois quand même dire que je revenais de temps en temps pour une semaine, surtout voir mes parents. Mon père était décédé un peu plus tôt, mais ma mère était décédée en 2011. Donc, elle était assez malade durant les dernières années de sa vie. Donc, je revenais de temps en temps pour lui rendre visite. Mais à part ça, vous savez, quand c'est toujours... C'est pas facile.
Alors, on va parler de votre parcours professionnel. On a déjà commencé à évoquer ça.
D'accord.
Votre premier emploi, c'était à Haïti.
Non.
Vous avez travaillé pour le camp de l'UNICEF?
Non.
Bien avant ça?
Non, mon premier emploi, c'est quand même au Congo. Parce qu'avant de partir, avant de quitter, j'ai travaillé au Congo. J'ai travaillé à l'UNICEF. J'ai enseigné.
Vous avez donné cours à l'ISTI?
Ah oui, j'ai enseigné pendant 5 ans. J'ai enseigné pendant 5 ans à l'ISTI. Et pendant que j'étais à l'ISTI, j'ai également eu la chance de travailler au bureau de l'Assemblée régionale de la ville de Kinshasa. Bon, ça, c'est peut-être des aspects qui n'apparaissent pas nécessairement dans les CV. Mais à l'époque, j'étais tout jeune, je me rappelle, j'avais 26 ans. J'avais rencontré un monsieur j'avais gardé un excellent souvenir de ce monsieur, que son âme repose en paix, Papa Mabanza Tukala Kese. À l'époque, quand je venais de terminer à l'ISTI en 1981, il était bourgmestre de la commune de Gombe. Et l'année suivante, il avait été élu président de l'Assemblée régionale de la ville de Kinshasa, ce qu'on appelle présentement aujourd'hui Assemblée provinciale. À l'époque, on appelait cela Assemblée régionale. Ouais. Donc, il m'a fait l'honneur de me nommer secrétaire particulier. Donc, j'étais secrétaire particulier du président de l'Assemblée régionale, tout en étant professeur assistant chargé d'enseignement et de recherche à l'ISTI. Donc, pendant 5 ans. Donc, je peux considérer que mon premier emploi,
c'était à Kinshasa.
C'était à Kinshasa, oui. Mm-hmm. Et ensuite, je suis allé au Canada.
Vous avez envolé le Canada, où vous avez obtenu votre diplôme d'études en drago aussi.
Mais j'ai fait communication.
Je vais y arriver en drago aussi. Vous avez fait la communication aussi.
J'ai fait communication, c'est très important de les maçonner.
Ouais. Communication,
voilà,
en drago aussi. À Montréal.
Oui, à l'Université de Montréal. Ouais.
Vous avez même donné cours là-bas.
Oui, j'ai donné cours là-bas. J'étais chargé des cours à l'Université de Montréal, au département de communication de l'Université de Montréal, où j'enseignais les cours d'introduction aux médias. ainsi qu'un cours de communication organisationnelle. Et j'enseignais également du cours de communication interculturelle. Alors, j'ai travaillé également pour l'Institut international de la communication qui recevait des stagiaires africains qui venaient en formation, en stage pendant quelques mois à Montréal, et j'avais la responsabilité d'assurer leur encadrement. Et pendant que j'étais à Montréal, j'ai également travaillé pour une université qui s'appelle TELUC, c'est une université spécialisée en formation à distance, c'est-à-dire tous leurs cours, ils les donnent à distance.
À distance.
Oui, et nous avions à l'époque monté un projet de formation à distance des spécialistes africains qui voulaient s'initier à la méthodologie d'élaboration de cours qui doivent être donnés à distance.
Vous avez de la chance, M. Mabiala, de travailler dans les institutions internationales. Haïti, Togo, Côte d'Ivoire, Nigeria. Dans des organisations internationales, dans le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la Fédération internationale pour la planification familiale, le Fonds des Nations Unies en matière des populations. Quelle chance!
Oui, je remercie Dieu, effectivement, c'est une chance. Mais
Vous avez fait? Ou comment vous faites?
D'accord, oui, c'est une chance, mais la chance, comme disait un ami, c'est d'abord mes compétences et mon expérience professionnelle. Mm-hmm. Il faut que je le précise. Si j'ai eu la chance de travailler dans toutes ces organisations que vous avez citées, c'est parce que au départ j'ai des compétences dans le domaine concerné, dans le domaine où j'ai travaillé, et aussi j'ai accumulé au fil des années une expérience qui intéressait mes différents employeurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis allé aux États-Unis travailler pour l'université Johns Hopkins à Baltimore dans le Maryland. Et quand on m'a recruté...
Là, vous coordonnez les programmes de formation?
Quand on m'a recruté, croyez-le ou non, je n'ai jamais fait une demande d'emploi.
C'est l'université qui est venue vers vous?
Oui, c'est l'université qui est venue vers moi parce que ils m'ont vu à l'œuvre dans d'autres situations, et un jour, ils m'ont approché en me demandant est-ce que ça vous intéresserait de venir passer... quelques temps chez nous pour travailler avec nous sur des enseignements pendant un mois à l'université. J'ai dit, oh ben, parfait. Et effectivement, je suis parti. Mais je ne savais pas à l'époque que c'était une forme de test. On m'a testé. Et en fait, ils m'avaient invité et me confiaient une charge horaire, me confiaient des cours. C'était pour eux une façon de me tester. Donc, j'ai passé à peu près un mois avec eux. Et quand je suis rentré, quelques mois après, ils m'ont fait une offre en me disant, est-ce que nous souhaitons maintenant que vous venez vous établir aux États-Unis? Alors, je leur ai dit, mais écoutez, moi j'ai une famille ici, je ne peux pas comme ça. J'ai dit, nous allons prendre tout en charge, nous allons nous occuper de votre visa, et c'est ainsi que je suis parti aux États-Unis et travailler.
Et vous avez travaillé là-bas pendant combien de temps?
Pendant 10 ans. Pendant 10 ans pour l'université Johns Hopkins à Baltimore, où j'enseignais, mais aussi je faisais des travaux de recherche, et je m'occupais de projets que l'université avait dans certains pays d'Afrique, notamment dans les pays d'Afrique francophone, mais dans quelques pays anglophones aussi, comme le Malawi, le Nigeria, et ainsi de suite.
Et au sein de l'UNICEF, c'était quoi votre travail?
Alors, au sein de l'UNICEF, j'avais commencé comme responsable du programme alphabétisation des adultes, parce que comme j'ai dit, j'ai fait des études d'andragogie, c'est-à-dire l'éducation des adultes, et à l'époque, l'UNICEF venait de lancer un grand programme d'alphabétisation des adultes, parce que malheureusement, dans ces pays-là, à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, le taux de scolarisation est encore très très bas, c'est-à-dire il y a très peu d'enfants qui vont à l'école. La conséquence, c'est que quand il y a très peu d'enfants qui vont à l'école, quand ces enfants deviennent adultes, ils sont analphabètes. Ils ne savent pas lire et écrire. Et vous savez que dans la société actuelle, c'est difficile de fonctionner, de vivre dans une société, dans la société actuelle, quand on ne sait pas lire et écrire. Donc l'UNICEF avait mis à l'époque un grand programme qui consistait à alphabétiser toute la population d'Haïti, enfin la population adulte, nous parlons de la population adulte, c'était un gros projet en collaboration avec l'Église catholique. Mm-hmm. J'avais commencé comme responsable de ce programme et par la suite, au vu du résultat que j'avais atteint, on avait décidé de me confier la responsabilité de toute la section éducation de l'UNICEF. Donc j'étais devenu chef de la section éducation à l'UNICEF et je suis resté 6 ans.
Et c'est dans ce cadre-là que vous avez publié l'ouvrage ouvrage ou un guide intitulé La communication au service de l'éducation des filles en Afrique.
Ça c'est longtemps après. C'est quand j'ai terminé mon mandat à Haïti, après 6 ans, je suis arrivé au Togo. Où j'ai travaillé pour la Fédération internationale pour la planification familiale dans le centre qui s'appelle Centre d'études de la famille africaine, CEFA en sigle. Et à l'époque, les collègues, les anciens collègues qui savaient, qui connaissaient le travail que j'avais fait à Haïti ont mentionné mon nom aux collègues de l'UNICEF qui étaient au bureau régional à Abidjan à l'époque. Et le bureau régional de l'UNICEF à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest m'avait contacté pour voir si je pouvais les aider justement à travailler avec eux comme consultant indépendant. Évidemment, j'avais demandé l'autorisation à mon employeur et il y a eu un accord entre mon employeur et l'UNICEF pour que je puisse les aider à encadrer des équipes de terrain qui faisaient ce travail de communication pour promouvoir l'éducation des filles. Parce que je dois mentionner que dans beaucoup de pays d'Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, l'une des raisons pour lesquelles le taux de scolarité est encore très bas, c'est parce que les parents sont réticents. Les parents ne comprennent pas encore l'importance de l'éducation. Donc à ce moment-là, on a imaginé des stratégies de communication pour justement persuader les parents que c'était important de faire de
scolariser. Moi, je pense qu'ils comprennent le sens de l'éducation, mais on privilégie plus les garçons que les filles.
Non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe. Il y a des situations, parce que nous avons fait des études. Tout cela, évidemment, a été basé sur des études qui ont été réalisées. C'est pas des stratégies de communication qui ont été élaborées en se basant de rien. C'est à partir des études que nous avons faites. Et les études avaient montré à l'époque qu'il y a des parents qui ne croyaient pas nécessairement au bienfait, au bénéfice de l'éducation, parce que certains parents disaient, mais beaucoup de ceux qui ont étudié ne sont pas nécessairement mieux que nous autres ou que d'autres, parce qu'ils ne trouvent pas nécessairement du travail. Dans d'autres cas, effectivement, ils préfèrent privilégier les garçons, parce que, disaient-ils, quand les filles vont à l'école, cela réduit leurs chances de se marier, ainsi de suite. Donc il y avait une panoplie de raisons pour lesquelles les parents, disons, ne voulaient pas scolariser leurs enfants.
Voilà. Alors, Mabiala, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Mais après, en écoutant la musique, j'aime bien écouter la musique. J'ai fait du jogging aussi, beaucoup de jogging aussi. Je regarde beaucoup la télévision, j'ai lu beaucoup. Voilà, ce sont des moments de détente, comme ça je les passe.
Quel genre de musique vous aimez écouter?
J'écoute beaucoup de la musique congolaise. J'aime écouter les westerns, la musique américaine, qu'on appelle les westerns.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment? Congolaise ou...
Congolaise. En ce moment, ce qui me ferait plaisir, c'est la musique congolaise de mon époque, de ma génération.
Votre génération.
De mon époque.
Ok, jazz. Ben non, ok, jazz. Ok, Grand Calais, je sais pas moi, Taboulé.
Des Taboulé, ça serait bien.
Un titre particulier qui vous vient en tête?
N'importe quel titre, me plairait.
Voilà, pour votre plaisir, on va se trouver un titre de Taboulay, pas seulement pour votre plaisir, mais pour le plaisir aussi de tous les auditeurs voilà, qui nous suivent en ce moment, partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocafi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Tommy fait ça pour ma écolo. Tout votre ma barre congolais. la ba congolais. Bolinga te école mo susu. E akoka bola mboka biteni. Mitema ya ba congolais. E komi kopela na ba moto a souffrance. To komi nele lo nansuka. Panso to la muka to la de la mboka. Moyaka ni toyokana. Tolukane solution ya Congo. Da peko swana swana na katina biso lelo totika.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Mabiala Maoumba, directeur de l'éducation et de la jeunesse au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Mabiala, parlons de la francophonie et de le département que vous dirigez.
La direction.
La direction que vous dirigez. Comment vous êtes parvenu à occuper cette fonction?
Ben, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai toujours eu de la chance, beaucoup de chance dans ma vie. Dans le cas précis, c'est pas compliqué. Il y a eu une annonce, j'ai vu une annonce dans Jeune Afrique. L'annonce disait qu'on recherchait un directeur pour diriger la direction de l'éducation et de la jeunesse de l'OIF. Et il y avait un profil, évidemment, qui était décrit et je correspondait exactement au profil. Je me suis dit, avec toutes les années que j'ai accumulées à travers le monde, au Canada, dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, un peu partout, aux États-Unis, je me suis dit, ce travail m'intéressait parce qu'il y a une perspective régionale, une perspective plus ou moins mondiale, parce que, comme vous savez, les pays membres de l'OIF sont éparpillés sur les 5 continents. Donc je me suis dit c'est vraiment le genre de travail qui m'intéresserait où j'aurai l'occasion d'impulser des politiques, des stratégies, d'aider les États membres de l'OIF à partager des expériences, à échanger des expériences, à documenter les leçons apprises, les bonnes pratiques, ainsi de suite. Et moi j'avais également une vision à partager à une échelle plus grande, parce que vous savez quand on a accumulé une certaine expérience, ce n'est pas un pays spécifiquement qui vous intéresse, c'est voir comment justement faire profiter à un ensemble de pays l'expérience qu'on a accumulée. Donc, et voilà, c'est ça qui m'a attiré. Donc, j'ai
postulé. C'est depuis quelle année que vous êtes à cette direction?
Ben, c'est depuis 2013, depuis le mois de mai 2013.
2013. Oui. Vous avez près de 2 ans.
Oui, voilà. Voilà.
Vous vous occupez de l'emploi et de l'éducation?
Non, je m'occupe de l'éducation,
de la jeunesse.
Oui. Et évidemment, dans le cadre de la jeunesse, nous avons des programmes qui visent à augmenter, ou plutôt à accroître l'employabilité des jeunes. En d'autres termes, nous mettons en place des programmes qui permettent ou qui donnent aux jeunes plus de chances de trouver du travail. Je donne un exemple.
Le travail au sein de l'OIF?
Non, c'est pas au sein de l'OIF. Je vais vous expliquer cela par un exemple très concret. L'un de nos programmes phares, c'est le programme que nous appelons Volontariat International de la Francophonie. Mm-hmm. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous lançons des appels à travers le monde à tous les jeunes âgés de 21 ans à 34 ans dans les pays francophones. Nous publions des postes en leur disant si ces postes ici vous intéressent, envoyez-nous nos dossiers et il y a un processus de sélection et au bout du processus, nous sélectionnons une soixantaine de jeunes et nous les envoyons dans ces différents pays-là pendant un an aux frais de l'OIF. Et l'objectif, c'est leur permettre d'acquérir l'expérience qui leur manque, mais aussi évidemment d'échanger avec un objectif
Vous les envoyez pour travailler dans quel domaine? Tous les domaines?
Tous les domaines, tout dépend seulement de les structures d'accueil avec lesquelles nous travaillons définissent un emploi. Par exemple, si Radio Okapi, si nous avons un accord avec Radio Okapi, Radio Okapi peut nous dire nous aurons besoin d'un jeune expert dans comme superviseur ou monteur des émissions. Okay? Et vous établissez les profils qu'il faut remplir. À ce moment-là, si nous acceptons, nous publions les postes et les jeunes envoient leur candidature. Maintenant, des communs accords, nous sélectionnons les jeunes parce que la structure d'accueil, nous sélectionnons les jeunes et nous envoyons les jeunes qui restent travailler pendant un an et ça nous permet donc d'acquérir l'expérience dont il a besoin pour mieux s'insérer dans son pays d'origine au retour. Parce que l'une des conditions du programme, c'est que le jeune doit absolument rentrer dans son pays d'origine au bout d'une année pour s'intégrer, pour trouver du travail. Donc, ça permet, comme je dis, ça permet aux jeunes d'avoir un peu plus de chances de trouver du travail.
Alors, puisque vous vous occupez de l'éducation et de la jeunesse, des pays francophones ou membres de la francophonie, quel est le principal problème de la jeunesse?
Alors, évidemment, quand nous parlons de jeunes, il faut bien parler des tranches d'âge. Hein, parce que, par exemple, on a sous-unis, on considère les jeunes de 15 à 24 ans. Nous, à l'OIF, nous considérons les jeunes, d'après notre, nous avons une stratégie jeunesse, nous considérons les jeunes de 15 à 35 ans. Okay, donc, cette tranche-là. Donc, quand nous parlons des jeunes, nous parlons de cette tranche d'âge-là.
Oui, prenons des 19 à 35 ans.
Voilà,
oui.
Exactement. Nous considérons cette tranche. Alors, cette tranche d'âge-là, leur préoccupation principale, primordiale, c'est faire de bonnes études. Disposer d'une éducation et d'une formation de qualité. Ça, et ensuite, évidemment, trouver un travail décent. Et les deux se sont liés. Parce que c'est quand vous avez fait de bonnes études, quand vous avez bénéficié d'une bonne formation, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un travail décent. Donc, c'est pourquoi ces deux aspects sont liés. Et nous avons des programmes qui permettent justement d'assister les États membres dans le domaine à la fois de l'éducation.
Justement, j'allais vous poser cette question. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous accompagnez les États membres dans leur programme éducationnel?
Absolument, c'est ça. Nous accompagnons les États membres d'abord au niveau éducationnel, c'est-à-dire au niveau primaire et secondaire, mais aussi en ce qui concerne la formation professionnelle et technique. Et ensuite, nous aidons les États membres à mettre en place des politiques ou des stratégies qui favorisent l'insertion socio-professionnelle. Parce que, comme je l'ai dit, la finalité des études ou de l'éducation, c'est l'emploi, en fin de compte. Et c'est ça, malheureusement, on constate au sein de l'espace francophone que le taux de chômage est très, 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 très élevé, que ce soit au nord ou au sud. Et nous avons constaté que l'une des raisons, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre de formation et les demandes de marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire inadéquation? C'est que il y a beaucoup de jeunes qui terminent. Il y a beaucoup de jeunes qui terminent l'école, mais qui ne trouvent pas de travail parce que les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises ne correspondent pas aux compétences recherchées par les employeurs. Donc c'est ça que j'appelle inadéquation. Et la solution c'est quoi? Mais c'est que il faut revoir certains contenus. Parce que si je prends les cas de l'enseignement au Congo, vous savez, le système a été conçu il y a 50 ans, 60 ans. Il y a ce qu'on appelle les humanités. Ça correspondrait à des besoins dans un contexte précis, à des moments précis. Mais il y a certains contenus qui ne répondent plus nécessairement à des besoins actuels. Parce que quand vous parlez, par exemple, aux employeurs ou à ceux qui créent des entreprises, à ceux qui ont des entreprises, qui cherchent à recruter des jeunes, ils vous demandent, moi j'ai besoin de telles qualifications, de telles qualifications, j'ai besoin de jeunes qui sont capables de faire ça. Mais vous trouvez que le programme ou les contenus des programmes dans les écoles ou dans les études supérieures ne correspondent pas toujours avec les qualifications recherchées par les employeurs.
Alors, est-ce que chaque pays, vous avez un programme spécifique pour chaque pays ou c'est le même programme pour tous les pays membres de la francophonie?
Non, nous avons des programmes et en général, ces programmes-là, c'est un processus de dialogue avec les États membres. Les États membres expriment leurs besoins, les États membres expriment leurs intérêts et en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts, nous incluons dans le programme et il y a des programmes qui portent sur 8 pays, il y a des programmes qui portent sur 4 pays, il y a des programmes qui portent sur une dizaine de pays. Ça dépend du type de programme.
Vous êtes en RDC à Kinshasa. Ouais. C'est dans quel cadre? Est-ce que c'est dans ce cadre-là?
Oui, je suis venu en RDC pour prendre part aux travaux de la 35e session de la conférence des ministres de la jeunesse de la francophonie, jeunesse et sport de la francophonie. Alors, je pense que c'est une réunion importante pour nous parce que cette réunion se tient quelques mois après l'adoption par nos chefs d'État de la stratégie jeunesse de la francophonie. à Dakar en novembre dernier, comme vous le savez, il y a eu le 15e sommet de la francophonie. Et la jeunesse a toujours été une préoccupation pour la francophonie. Mais pour la première fois, nos chefs d'État ont adopté un document qui trace la voie à suivre pour contribuer à répondre aux besoins et préoccupations des jeunes, ce qu'on a appelé la stratégie jeunesse de la francophonie. Donc ça nous donne une voie à suivre pour les 8 prochaines années au sein de l'espace francophone. Et justement, je suis venu prendre part à cette réunion où cette stratégie va être présentée et discutée par les ministres de la jeunesse pour voir comment mettre cela en œuvre, comment mettre ça en pratique pour répondre justement aux besoins et préoccupations des jeunes.
Est-ce que c'est faisable? Vous pensez que ça va réussir?
Non, mais une stratégie, c'est, nous donne un cadre. Hein, ça donne un cadre, ça nous donne des objectifs à atteindre. Ça nous donne, ça indique les axes d'intervention que nous voulons poursuivre. Maintenant, nous nous donnons 8 ans. C'est une stratégie que nous avons, que les chefs d'État ont adoptée, qui est valable pour 8 ans. Maintenant, c'est chaque pays de voir comment, quels sont les aspects les plus importants par rapport aux réalités de ces pays-là et mettre en place un plan d'action et des programmes appropriés pour répondre à ces plans. Par exemple, dans le cadre de cette stratégie jeunesse, un des objectifs stratégiques clairement mentionnés, c'est que la francophonie veut promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. En sorte que les jeunes aient l'esprit créatif, soit deviennent des entrepreneurs. Ça s'apprend. Ouais. Alors maintenant, mais comment traduire ça dans la pratique? Ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier, par exemple, introduire dans nos programmes de cours des notions de commerce, de comment monter une petite entreprise, comment... Il y a des pays qui le font dès l'école primaire. On vous initie. Et maintenant, vous savez, par exemple, chez nous, quand vous sortez, vous allez dans n'importe quelle petite ville, à la cité, à Kinshasa ou ailleurs, vous voyez des enfants, après l'école, ils vont vendre les mangues, ils vont tout ça, etc. Mais ils le font sans nécessairement avoir des notions, comme disent les anglophones, de business.
De business.
Vous voyez. Mais maintenant, c'est ça l'esprit entrepreneurial, faire en sorte que déjà dès le bas âge, on ait ces notions de base-là, créer pour que les jeunes deviennent non pas seulement demandeurs d'emploi, mais surtout créateurs d'emploi.
Merci professeur, le temps nous fait défaut, on a beaucoup de choses à se dire malheureusement. On doit arrêter, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Peut-être un dernier mot à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment.
Mais mon dernier mot, c'est un message à tous les jeunes congolais de saisir les opportunités. Nous sommes dans un monde qui est ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités, pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Le monde est devenu un grand village. Il y a beaucoup d'opportunités qui existent. Il faut que les jeunes aillent chercher l'information, sachent exploiter ces opportunités et ne se découragent pas. Mais aussi, il faut qu'ils s'impliquent dans les études, il faut qu'ils s'impliquent dans l'éducation, il faut qu'ils prennent leur avenir au sérieux, parce que dans la plupart des pays francophones, les jeunes sont majoritaires, et au Congo aussi, les jeunes sont majoritaires, et le monde leur appartient, le monde de demain, c'est pour eux, mais c'est à eux de façonner ce qu'ils veulent devenir demain.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à Patrick Kiasongwa qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Je rappelle que je recevais M. Madiala Maumba qui est directeur de l'éducation de la jeunesse au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous.